le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout, agréable condition d'écoute des programmes de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Il est impensable que des familles qui ont fui la violence aient été tuées et blessées dans un endroit qui était censé offrir la sécurité. L'UNICEF exprime ainsi son indignation après qu'une bombe tombée mardi dernier dans un camp de déplacés a tué notamment des enfants. Cette agence onusienne interpelle le gouvernement congolais. Non à la violence populaire, tel est le message véhiculé lors d'un séminaire sur la lutte contre la vindicte populaire à Kinshasa, travaux tenus la semaine dernière. L'ex-enfant soldat Ndale Nyengela est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Commençons cette page d'actualité au Nord Kivu. Des civils, dont des enfants tués par une bombe tombée dans un camp de déplacés. L'UNICEF exprime son indignation. Il est impensable que des familles qui ont fui la violence aient été tuées et blessées dans un endroit qui était censé offrir la sécurité. C'est ce qu'a déclaré Grant Letty, représentant de l'UNICEF en RDC. D'après cette agence onusienne, l'accident est survenu mercredi dernier dans un camp de déplacés de Zaïna. Nous sommes à la périphérie de la ville de Saké. L'UNICEF prie le gouvernement congolais de demander des comptes aux auteurs de ces actes et de renforcer la protection des enfants et de leurs familles. Pele Kipelamondo.
Selon l'UNICEF, qui s'exprime dans un communiqué rendu public hier mardi, cet incident reflète l'augmentation inquiétante du nombre de victimes civiles au cours des dernières semaines, résultant du ciblage délibéré ou accidentel des personnes dont les sites étaient déplacés de l'est de la RDC. D'après l'agence onusienne, un certain nombre de morts, y compris des enfants, ont été signalés dans cet incident et de nombreuses personnes ont été blessées. L'UNICEF cherche à obtenir davantage d'informations sur le nombre de victimes. Nous appelons toutes les parties au conflit à protéger la vie des civils innocents, en particulier des enfants, indiquent les responsables de l'UNICEF en RDC et l'agence onusienne de rappeler que le nombre de nouvelles personnes déplacées dans le Nord Kivu en janvier 2024, suite aux combats qui se sont intensifiés ces derniers mois, était plus élevé qu'en janvier 2023, qui était le pic précédent, et de souligner, je cite, « Il y a maintenant 1,1 million de personnes déplacées dans le Nord Kivu contre 591 000 en août 2023 », fin de citation.
Non à la violence populaire, tel est le message véhiculé lors d'un séminaire sur la lutte contre la vindicte populaire à Kinshasa, travaux tenus la semaine dernière dans la capitale congolaise. Que signifie cette expression? Quelles sont les causes et conséquences de la vindicte populaire? Comment y faire face? Plusieurs modérateurs ont défilé à tour de rôle pour éclairer l'assistance. Greta Lulendo, reportage.
Nul ne peut se faire justice, dit la loi. Dans les soucis de mettre en place des mécanismes efficaces et efficients de lutte contre la justice populaire, UNPOL a sensibilisé les acteurs impliqués dans la justice et dans l'éducation de masse. Objectif, les amener à relayer l'information dans leur secteur respectif. Colonel Costine Miron, chef de secteur UNPOL à Kinshasa.
On s'est dit nous-mêmes que rien faire, ce n'est pas une solution en tant que mission des Nations Unies au Congo et qu'on doit sensibiliser les acteurs principaux de ces mécanismes et d'essayer de réduire, voire éradiquer complètement ces phénomènes si ça sera possible.
Pour Grace Lula Amba, représentante de la société civile, la vengeance populaire a un impact considérable sur les femmes. Elle souligne que chaque mois, 10 femmes en sont victimes dans la province de Kwilu. Pour Roger Kanda Echikudi, commissaire supérieur adjoint, chef du département de lutte contre la criminalité et les stupéfiants à la coordination provinciale de la police judiciaire de Kinshasa. La police a une mission préventive et répressive concernant ces phénomènes. Pour y arriver, elle a besoin de moyens et de la main d'œuvre. Selon les experts présents, nul n'est à l'abri de ces fléaux.
Journée internationale des enfants soldats, lundi 12 février, Radio Capi s'est intéressée à la situation des enfants affectés par les conflits armés dans la région de Beni, Butembo et Lubero dans le Nord Kivu. Nombreux d'entre eux, séparés de groupes armés grâce aux efforts des FARDC et de la MONUSCO, sont pris en charge par l'ONG Action Concrète pour la Protection de l'Enfance, partenaire de l'UNICEF. Sadiki Aboubakar signe ce reportage.
Ils sont aujourd'hui 89 dont 16 filles des nationalités congolaises, burundaises et ougandaises prises en charge au centre de transit et d'orientation de l'ONG à Kopé à Beni. Si certains ont été sortis des groupes armés ADEF, APCLS, CMC, FDLR et FPP bar AP, d'autres par contre ont été victimes de certaines violations graves des droits des enfants à cause des conflits armés dans la région. Cet enfant de 16 ans, sorti d'une milice où il a été combattant pendant 4 ans, revient sur son calvaire dans la brousse.
Je les aidais à puiser de l'eau, chercher le bois de chauffe dans la brousse et transporter de la nourriture de là où ils ont pillé jusqu'au niveau du camp.
Cette fille, qui vient d'avoir 18 ans, avait été violée par les rebelles du M23 à Bambo dans le territoire de Rutshuru avant de se retrouver enceinte de 3 mois. Aujourd'hui, elle ne connaît même pas l'auteur de sa grossesse.
Ils ont égorgé mon père et ma mère à ma présence et ont abusé sexuellement de moi. C'est plus tard quand je suis arrivé à Beni que je me suis rendu compte que j'étais tombé enceinte ce jour-là.
Cet enfant, 16 ans, est réinséré dans sa famille et a été combattant pendant 2 ans. Il dit apprécier sa nouvelle vie.
J'ai été bien accueilli chez nous. On m'a même donné du travail. Tous les enfants comme moi qui sont encore sous l'emprise de ces seigneurs de guerre, je leur demande de tout faire pour sortir. Dans la forêt, il n'y a que de la souffrance.
La MONUSCO et l'UNICEF apportent un appui pour l'intégration sociale de ces enfants séparés des groupes armés. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Nous restons en Nord Kivu avec cet appel du gouverneur militaire aux habitants de Sake, à 27 km de la ville de Goma, de ne pas s'en prendre à la MONUSCO. Dans un message de compassion dimanche dernier à Sake, le gouverneur a appelé également les populations de la cité de Sake et ses environs à la vigilance et au calme. C'est pour justement ne pas prêter le flanc à l'adversaire qui nous guette tous, a-t-il dit. Les propos du général-major Peter Chirimwami ont été recueillis par la cellule de communication du gouvernorat de province.
Maintenant, je vous dis par rapport à la MONUSCO. Vous voyez, l'ennemi est là. Si vous manifestez ici, c'est-à-dire vous facilitez l'entrée à l'ennemi. Hier, j'étais avec la société civile et le Barza intercommunautaire. La décision que nous avons prise est celle-ci pour éviter toute suspicion. Désormais, pendant les opérations, les FARDC et la MONUSCO vont devoir rester ensemble pour éviter toute suspicion des parties. Et d'autres. Il y aura notre témoignage. Maintenant, vous devez faire attention. Si les autorités interviennent, c'est pour l'intérêt de la population. Nous ne pouvons pas tolérer que vous manifestiez ici. C'est important de rester ensemble et de discuter.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Laurent Cressy, infirmier en chef du centre hospitalier Bethesda, communément appelé CBCR Ndosho dans la ville de Goma, qui bénéficie de l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Ce centre connaît un afflux de déplacés de guerre depuis des affrontements à répétition dans le Massissi. Au moins une centaine de blessés par bombardement reçoivent de soins dans cet hôpital avec une moyenne de 25 interventions chirurgicales par jour. Laurent Cressy s'entretient avec Sifa.
Bonjour monsieur.
Bonjour Sifa.
Pouvez-vous nous faire un petit état des lieux de la situation humanitaire, sanitaire, des blessés que vous recevez depuis les récents... Enfin, il y a toujours des affrontements, mais les tout derniers affrontements, combien vous avez reçu, quel type de cas et quelle prise en charge vous organisez?
Il est vrai que les affrontements continuent depuis quelques mois déjà, mais là, on atteint vraiment un sommet. Nous avions reçu la semaine précédente plus de 20 patients liés au conflit. Mais là, le 7, c'était plus de 60 patients qui sont arrivés dans la matinée, directement, donc sans ambulance, sur des motos. Certains patients décédés sur les motos, donc c'était vraiment très compliqué à gérer. Donc nous sommes spécialisés dans les blessures par arme à feu et explosion. Donc là, en l'occurrence, la plupart des cas étaient liés à des explosifs, des explosions, donc des bombes. Nous avons augmenté notre capacité d'accueil. Nous sommes passés de plus de 90 lits à 116 maintenant. Et pendant une certaine période, nous étions à 135 patients dans notre espace de prise en charge. Ce qui se passe, c'est que nous avons stabilisé tous les patients. Nous avons pris au bloc immédiatement les cas les plus urgents. Et là, actuellement, nous sommes en train d'opérer les patients qui sont en attente d'être opérés. D'une part, donc un gros programme au bloc opératoire, plus de 25-26 patients au bloc par jour, donc c'est quand même lourd. Nous avons augmenté notre capacité chirurgicale, donc nous avons un chirurgien, un CICR qui est arrivé et nous avons pu utiliser ses compétences pour nous aider. Et d'autre part, donc comme nous sommes vraiment complets, Nous avons disponibilisé 116 lits. Nos 116 lits étaient pleins au-delà, puisque nous, hier soir, nous avions 117 patients. Nous essayons de transférer des patients vers notre autre structure qui se situe à Bukavu. Donc là, ce matin, ma priorité, c'est identifier les patients avec le chirurgien qui sont transférables à Bukavu et pour délester un peu Goma, et pour pouvoir justement faire face à ce qui peut se passer dans la semaine, et qui continue d'ailleurs, parce que ce matin, nous avons encore reçu déjà un blessé de sac.
Les cas qui sont transférés, par exemple, à Bukavu, est-ce que ce sont des cas complexes? Est-ce que c'est là qu'il y a plus de spécialités, des matériels ou comment?
Il y a finalement deux options. Habituellement, à Bukavu, nous transférons des patients pour la neurochirurgie, la chirurgie maxillofaciale et la chirurgie urologique, parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans cette discipline. Mais actuellement, ça dépasse. On dépasse ces situations, ces cas particuliers, et nous envoyons d'autres cas de chirurgie générale qui peuvent très bien assumer, parce que nous sommes vraiment, travaillons vraiment ensemble. Et ce matin, nous avons contacté Bukavu, ils nous ont dit voilà, nous avons tant de places. Moi, je suis en train de faire la liste avec un petit compte-rendu médical. Ils vont les valider et ensuite on pourra les transférer avec l'accord, bien sûr, de la délégation CICR et après avoir observé toutes les règles de sécurité.
Mais est-ce qu'il y a d'autres cas que vous transférez dans d'autres hôpitaux ici à Goma pour désengorger un peu l'hôpital? Vous ne craignez pas d'être saturé et de manquer ou mettre d'autres malades?
Si. Alors d'une part, nous avons demandé une autre équipe chirurgicale. Ensuite, nous avons aussi fait une nouvelle commande de matériel. Après, effectivement, en termes de capacité, ça devient compliqué. Nous avons une option à propos des ce qu'on appelle les cavers, c'est-à-dire des patients qui nécessitent que des pansements, que nous orientons vers l'hôpital Keshiro, qui est appuyé par Médecins Sans Frontières. Donc eux nous aident pour ces cavers, mais finalement ça reste limité en termes de nombre.
Et les malades, prenons les cas compliqués, est-ce que ça évolue bien jusque-là? C'est que vous avez déjà soigné. Et ça prend combien de temps pour que la personne se rétablisse?
Donc, en fait, tout dépend de la lésion. Par exemple, c'est vrai qu'on reçoit quand même beaucoup de blessures abdominales. Et là, c'est parfois plusieurs mois. Hein. Pareil, si vous avez une plaie paramaphoe au niveau du fémur, c'est plus de 8 semaines. Donc, c'est très très long. Voilà. Le meilleur des cas, c'est 15 jours.
Merci.
Au sujet de la guerre dans l'est du pays, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné lundi dernier l'offensive de la rébellion du M23 dans cette partie du pays. Elle s'inquiète d'une escalade de la violence dans la région. Des membres du Conseil ont répété leur condamnation de tous les groupes armés opérant dans le pays. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice Debiana, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité. À l'issue de ces consultations, les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur plein soutien à l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Ils ont appelé tous les acteurs à mettre fin à la violence et à respecter le droit international humanitaire. Le Conseil a appelé toutes les parties à reprendre le dialogue diplomatique et également réitérer son soutien à la MONUSCO. Elle a condamné les violences qui ont visé le personnel de l'ONU ainsi que le personnel et les locaux diplomatiques à Kinshasa. Les membres du Conseil ont également appelé à des enquêtes impartiales.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le monde célèbre le 12 février de chaque année la journée mondiale de lutte contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans l'armée. À cette occasion, le magazine des Nations Unies reçoit comme invité Ndale Nyengela, ex-enfant soldat, qui est aujourd'hui en dernière année de droit à l'université Nouvelle PAC à Bukavu. Il nous relate son histoire, comment il s'est retrouvé dans les groupes armés, comment il en est sorti, comment il vit sa réintégration dans la communauté. Il nous en parle dans cet entretien accordé à Rachel Kestembango.
Bonjour Ndale.
Bonjour madame et la journaliste.
Comment vous vous êtes retrouvé dans le groupe armé?
En fait, nous avons été enlevés dans un chemin de l'école, dans un petit village, dans le territoire de Fizi. Et on était à Suisse et on nous a embarqués vers la forêt. Ce fut le cas, on est devenus comme ça, des enfants soldats, pendant 3 ans.
Vous êtes là avec les groupes armés, mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'enfant?
Toutes les mauvaises choses qui existe et qui peut exister. Vous allez au front, on vous met en avant, Vous cuisinez, vous faites la lessive des chefs, des commandos, tout ça. Vous puisez de l'eau et parfois on vous envoie au champ pour chercher des trucs pour allumer le feu, donc les bois de chauffage, beaucoup de choses. Quand vous allez au front, c'est pour tirer. Au front, déjà, c'est pour tirer.
Et vous avez l'espoir un jour de vous en sortir?
J'avais la foi. Et que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut espérer voir un jour. C'est ça que j'avais en tête. Je savais que Dieu, il est là. Peut sauver tout le monde. Peut-être je m'en sortirai. Et ce fut le cas.
Lorsque vous avez quitté le groupe armé, vous êtes arrivé au BVS. Est-ce que vous avez des ambitions, des rêves? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête par rapport à votre futur?
J'ai fait le droit pour défendre les enfants. J'ai le rêve de défendre les enfants et les femmes. En général, les droits de l'homme, c'est ça mes ambitions.
Quand vous étiez encore cet enfant-là, est-ce que vous avez des idées de qui vous allez devenir dans quelques années?
Non, je n'avais pas ces idées. Mes droits ont été violés, j'ai été maltraité. C'est par là que j'ai commencé à avoir les idées. Quand j'ai été libéré, quand j'ai été affranchi des maltraitances dans la forêt, c'est là que j'avais commencé à avoir les idées que j'allais faire quelque chose pour les autres, pour éviter en fait les impudicités, tout ça. En fait, c'est ça.
Et qu'est-ce que la journée des enfants soldats représente pour vous qui êtes passé par là?
La journée d'enfant soldat, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de brave que j'encourage à celui qui avait décrété cette journée. À telle enseigne qu'on arrive à démontrer comment on traite les enfants partout dans le monde. Et on lit des discours, on interpelle les gouvernements internationaux et nationaux, de ne pas maltraiter les enfants, vraiment. Je trouve que c'est quelque chose de très bon. En termes de plaidoirie, c'est quelque chose de très bien pour moi.
Vous êtes en L2 droit à l'université de la Nouvelle-Pac, ici à Bukavu. Comment ça se passe avec vos collègues, vos amis? Est-ce qu'ils connaissent votre histoire? Comment ça se passe au fait?
Bon, d'habitude, je n'ai pas trop d'amis là-bas. Mais j'en ai un peu. Et je sais qu'il y a ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Parce que bon, mon passé, ma vie, je ne dois pas en parler à tout le monde. Et à l'université, à l'école, ce n'est pas tout le monde qui est ami de tout le monde. Donc chacun a ses amis qu'il peut partager des informations, des confidences. Donc il y a certains de mes camarades qui connaissent bien l'histoire.
Pendant votre réintégration dans la communauté, est-ce que vous avez eu à subir des injustices?
Je dirais oui, mais pas trop, parce que ça dépend de l'endroit où vous habitez, et ça dépend des gens que vous rencontrez dans la communauté, parce que parfois on change des habitations. En résumé, je dirais que c'était un peu difficile, mais je suis là, malgré tout ça, je suis là, parce que tout le monde a son histoire, et il n'y a pas d'héros sans histoire, c'est ça, pays. S'il y a encore des enfants dans des forêts, je peux leur dire qu'ils puissent continuer à se battre et espérer un jour être affranchis.
Je vous remercie et je vous souhaite bon vent.
C'est moi qui vous remercie, madame.
La MONUSCO fait partie des opérations aux côtés des FARDC sur le front Nord Kivu et fait un travail remarquable pour la population de Sake, de Goma et tous les alentours. C'est ce qu'a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre au ministère de la Défense. Il s'est exprimé ainsi lors de son arrivée à Goma. Il appelle la population à ne pas tomber dans ce qu'il qualifie d'incompréhension ni céder à l'inquiétude à ce sujet, étant donné que la MONUSCO et les forces de la SADC travaillent et combattent aux côtés de la C'est ce qu'a dit le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. On l'écoute.
Non, je voudrais rassurer la population. La MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'est aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension. Certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours, et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
À noter ces trois dates dans vos agendas pour la semaine qui commence le 20 février. C'est la journée mondiale de la justice sociale. La journée internationale de la langue maternelle intervient le 27 février. Et le 1er mars, c'est la journée zéro discrimination. C'est la fin de cette émission à réécouter sur www.radiokapi.net. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Dieudonné Nyangasa qui était à la supervision technique. Moi, c'est Baben Pongo Massimango. C'est avec un grand plaisir, comme d'habitude, que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Jeff Opela. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix. Quant au magazine de Nations Unies, son équipe vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien.